RFI. Et on commence avec vous, Dominique Bayard, bonjour.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Aujourd'hui, l'économie, vous nous emmenez en Allemagne ce matin où la grève dans la métallurgie se durcit. Nouvelle étape hier avec la fermeture d'une trentaine d'usines.
Oui, c'est une première en Allemagne et ce n'est pas fini. D'autres usines resteront fermées aujourd'hui et encore d'autres demain. Cette dramatisation du conflit rompt avec la tradition allemande de la cogestion. Outre-Rhin, le dialogue social est tellement bien huilé qu'il suffit en général de grèves d'avertissement de quelques heures pour réunir très vite patrons et syndicats à la table des négociations. Mais cette fois, l'impasse semble totale. Certaines fédérations patronales ont même porté le conflit sur le terrain judiciaire pour contester la légalité de la grève.
Dans cette Allemagne si prospère, les patrons sont pourtant favorables à la hausse des salaires.
Oui, la métallurgie, qui est le plus grand exportateur du pays, a les moyens de céder aux revendications salariales et elle est prête à faire des concessions. IG Metall veut une augmentation de 6% sur un an, le patronat propose 7% étalé sur 2 ans. Un compromis raisonnable est possible après 10 ans de compression des salaires. Il est même souhaitable. Le syndicat a le soutien direct de la Banque Centrale Européenne. Elle est favorable à la hausse des salaires allemands de la métallurgie pour doper l'inflation, car il va de soi qu'un accord pour les 3 900 000 métallos pourrait très vite s'étendre à d'autres secteurs.
En revanche, sur la semaine des 28 heures, là, le blocage est total.
Oui, c'est 35 ans après la semaine des 35 heures, cette nouvelle réduction du temps de travail est une hérésie complète pour les employeurs allemands. Pourquoi accorder une semaine à 28 heures à ceux qu'ils souhaitent, en les payant presque à taux plein, s'ils s'occupent de leurs enfants ou de leurs parents? C'est la revendication d'IG Metall. Alors que d'autres salariés, pendant ce temps, sont contraints d'accepter un temps partiel, expliquent les patrons soudain très sociaux. Pour eux, la flexibilité s'applique automatiquement au nom des intérêts de l'entreprise pour s'adapter au carnet de commandes, pas encore pour s'adapter à la vie de famille des salariés.
Et donc du coup, Dominique, pourquoi IG Metall insiste tant sur cette revendication?
Eh bien, IG Metall, avec cette semaine de 28 heures qu'un salarié obtiendrait pour une durée de 2 ans maximum, avec l'assurance de retrouver un temps plein, il cherche à répondre aux aspirations des nouveaux salariés allemands. Les jeunes et les femmes, de plus en plus présentes sur le marché du travail, pour la puissante centrale, être en phase avec ces nouveaux publics, c'est un enjeu vital, car ses adhérents, de fait, sont de plus en plus vieux. Il y a aussi, dans ce bras de fer, il ne faut pas l'oublier, une arrière-pensée très politique pour aider les sociaux-démocrates dans leurs négociations avec la CDU. Lors des législatives précédentes, IG Metall, avec d'autres syndicats, avait fait campagne sur l'introduction d'un salaire minimum. Ils ont obtenu gain de cause. Et bien cette fois, c'est après l'élection qu'ils entendent peser sur la formation du gouvernement.
Et les sociaux-démocrates, eux, souhaitent obtenir justement la fin des contrats temporaires qui sont perpétuellement reconduits.
Et cela rejoint tout à fait les préoccupations du syndicat, bien conscient de la dualité croissante du salarié allemand. Pour surmonter la crise, on sait que l'Allemagne a préféré fournir des petits boulots mal payés au plus grand nombre plutôt que de voir grossir les rangs des chômeurs. Résultat, dans cette Allemagne laborieuse, la moitié des salariés sont aujourd'hui des précaires, mal payés, non protégés par les syndicats parce qu'ils ont des contrats courts ou parce qu'ils travaillent dans des petites entreprises.
En bref, Dominique, Netflix, le géant de la vidéo en ligne, lorgne sur EuropaCorp, le studio de Luc Besson.
Un studio dans une mauvaise passe financière à cause du semi-échec de Valérian, la dernière grande production du cinéaste français. Il y a d'autres studios sur les rangs, les Américains Warner et Sony, son actionnaire chinois Fondamental, et aussi les groupes de télévision français TF1, et enfin Vivendi qui est le propriétaire de Canal+, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Et malgré d'excellents résultats financiers, là, le patron de Facebook reconnaît que l'année 2017 a été difficile.
Oui, vous savez, le réseau social a été plusieurs fois accusé de diffuser des fausses informations par manque de modération. Mais le réseau subit aussi une désaffection des usagers. Les 2 milliards d'usagers y passent de moins en moins de temps. La fréquentation a chuté de 5% au dernier trimestre. Je ne sais pas si vous êtes concerné, Mickaël. Tant mieux sur Mark Zuckerberg qui dit préférer la qualité à la quantité des échanges.
Je vous laisse chercher. Merci beaucoup, Dominique Bayard.